L'Éden de Satan No 43. Questions et réponses No 1. Réunion des ministres francophones. Avril 2022 matin. Pasteur Brian Kozurek. Question 1. Dans l'Éden de Satan numéro 33 page 7. Vous avez dit ceci, les mondialistes motivés par le Vatican pensaient qu'ils pouvaient briser les économies mondiales et le dollar américain en utilisant les pandémies. Mais ça n'a pas marché. Cela a affaibli les nations. Mais si vous vous souvenez, la première fois que la colonne de feu est revenue pour un exode, il a fallu 10 plaies pour briser l'économie et la colonne vertébrale de l'Égypte. Et donc nous sommes là-dedans pour un peu plus longtemps. J'en ai peur. Que voulez-vous dire par nous sommes dans cette situation pour un peu plus longtemps? J'ai peur. Alors que nous savons que nous sommes dans une grande attente de rencontre de la résurrection? Réponse numéro 1, si l'on se base sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières années, nous avons déjà un fléau, COVID-19, et un autre qui arrive, le VIH, car tous ceux qui ont eu trois doses jusqu'à présent deviennent séropositifs. Pourquoi? À cause de la quantité de VIH dans l'injection. La première partie COV signifie le rhume, et il y a environ 200 souches de ce virus. La seconde partie, le SRA, est sortie du même laboratoire de niveau 4 de Wuhan en 2003, et s'est avérée mortelle pour les personnes âgées. Ils ont mélangé les deux et ajouté deux éléments du VIH, afin de supprimer le système immunitaire suffisamment longtemps pour que les cellules lipidiques contenant les protéines de pointe se mettent à l'œuvre pour combattre le SRA. Avec chaque injection supplémentaire, vous ajoutez plus de VIH, qui supprime encore plus votre système immunitaire, ce qui vous donne un système auto-immun ou le VIH. En 1997, Frère Vel et moi avons passé 4 heures à discuter des fléaux que les coupes contenaient. Chaque messager de l'âge de l'Église est revenu avec une trompette et une coupe. La trompette était son message, la trompette de l'Évangile, et la coupe était un fléau temporaire. 63-0318 est le point premier point saut souligné, Jeff.yen, SS lundi souligné paragraphe 63 remarquez ce, qui se passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un seau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Voyez? 64 cette guerre. Qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. 65 ensuite Dieu prend son messager, avec les élus de cet âge-là, et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. 66 ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue. Et ils s'organisent, ils introduisent des dénominations, avec pour point de départ l'œuvre de cet homme, par exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 ensuite un autre mystère apparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre, point âge de l'Église. Voyez? Alors, quand il arrive, il, Là la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu'est-ce ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat et le détruit. La mort spirituelle frappe l'église. S'en est finit de ce groupe-là. Ensuite il passe à un autre. Oh! C'est un plan glorieux. Paragraphe 68. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées, vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là, dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là, dans Apocalypse 10.1 à 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Très bien. Voyez, Apocalypse 10, un je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Deux, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Trois, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quatre, et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et Néhémie l'écrit pas. Bien, nous savons donc, d'après ce que frère Branham nous a dit sur le premier sceau, que chaque âge est le même. Dieu envoie un messager et l'équipe d'une trompette qui est un message de l'évangile, et d'une coupe qui est un fléau de jugement temporaire pour l'âge qui rejette le message de cet âge. Ainsi, un sceau est brisé, un mystère qui n'était pas connu est ouvert à l'église, ce qui provoque une guerre au sein de l'église. Certains qui croient restent avec le messager jusqu'à ce que Dieu le retire de la scène, puis Dieu ouvre une coupe ou un fléau qui estère un jugement temporaire pour ceux qui ont rejeté. Et nous voyons que chaque âge estère le même, car Dieu estère le Dieu immuable. Maintenant, si nous allons dans le livre d'Apocalypse, nous verrons ceci pour chaque messager à chaque âge. Apocalypse 15, c'était l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges cette coupe d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Bien, nous voyons dans ce verset qu'il y a sept anges avec cette coupe. Chaque coupe est un fléau pour le rejet de la vérité de l'évangile que Dieu a révélé à cette époque, par l'intermédiaire de son ange ou messager. Cherchez le mot utilisé dans ces versets et le mot ange sester angelos en grec. Et cela signifie un pasteur ou un messager. En grec, angelos venant de angelo, ce qui signifie apporter des nouvelles, un messager, spécialement un ange, ce qui implique un pasteur ou un messager. Apocalypse 16, 1 et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges, allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Dans ce verset, nous voyons que les instructions pour chacun des sept anges messagers sont les mêmes. Passons donc en revue l'ensemble des sept anges ou messagers, pour voir qu'ils accomplissent tout ce qui leur a été ordonné dans Apocalypse 15, 7. Le premier ange était Paul, qui était pasteur à Éphèse. Il était le messager de l'ère de l'église éphésienne. Puis Jean a pris la relève après que Paul a été décapité. Apocalypse 16, 3 et le deuxième ange, nous connaissons Irénée Lyon France, versa sa coupe sur la mer, et elle devint comme le sang d'un mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Apocalypse 16, 4 le troisième ange, Martin de Tours France, versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Apocalypse 16, 8. Le quatrième ange, Colomba, Irlande et île écossaise, versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Apocalypse 16h10. Le cinquième ange, Martin Luther, Allemagne, versa sa coupe sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli de ténèbres, et il se rangeait à la langue de douleur. Apocalypse 16h12. Le sixième ange, John Wesley, Angleterre, versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tinrent, afin que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Apocalypse 16h17. Le septième ange, William Branham, versa sa coupe dans l'air, et une voix forte se fit entendre du temple du ciel, du côté du trône, en disant, « C'en est fait. » Apocalypse 17. Un puis un des sept anges, qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. » Apocalypse 21. 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Remarquez que ce septième ange est celui qui proclame la malédiction sur la prostituée d'Apocalypse 17, et qui présente également l'épouse à Christ. Ainsi, le septième ange est le dernier ange. Et c'est le même ange qui crie dans Apocalypse 18. Apocalypse 18. 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez mis participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Remarquez que son message dans Matthieu 25 est toujours le même. « Sortez. » Dans Apocalypse 3 à l'âge de l'Église, « Je me tiens à la porte. Sortez. » Dans Jacques 5, « Voici le juge se tient à la porte et dit, sortez. » Et dans Apocalypse 18, « Sortez. » Dans Apocalypse 21, il dit, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Oh, j'espère que vous pouvez voir pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Néhémie, pensez pas que je parle du vase que Dieu utilise. Non. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ange de l'Alliance. Essayez de rendre un service à Dieu, sans que c'est eux soient là, volonté de Dieu souligné 27 novembre 1965 petit déjeuner souligné Shreveport, Louisiane, USA paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour, et Sodome et Gomorre. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon. On a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, ou plutôt Luc 17.30. Cela où l'Esther dit que le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Pas un homme, Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais deux prophètes majeurs en même temps, jamais au monde. Voyez? Peu importe combien il y a d'un, deux têtes, ça, Néhémie peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle. Voyez? Il y a un seul Dieu. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez, qui Néhémie faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie, l'esprit d'Élie. Il utilisait cet esprit, mais c'était le même Dieu qui le contrôlait tout le temps pour accomplir ses paroles. C'était pourquoi William Branham pouvait dire 65-0725 m les.1.du.temps.de.la.fin souligné jeff.yenv6. N1 dimanche souligné 269. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande. Vous qui écoutez les bandes. Vous qui appuyez sur play. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est à moi qui apporte ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix. Rien de plus. Et ma voix, contre mon propre gré, même, j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est Esther la volonté de mon père. Je n'y suis pas celui qui Esther apparut là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui Esther apparut. Je n'y suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui Esther proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais. C'est Esther seulement que je me suis abandonné, et il a parlé à travers moi. Ce n'était pas moi, ce n'était pas le septième ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. Donc l'ange a un message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'était pas un homme, c'est Esther Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme Esther Christ. C'est Esther de lui que vous vous nourrissez. Vous n'aimez, vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. 270 Si vous n'aimez, vous êtes pas nourri pleinement de chaque parole. Afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde. Voulez-vous le faire en ce moment? Pendant que nous prions? Maintenant, pour en revenir à notre question, nous voyons que le septième ange, non seulement apporte sa propre coupe, qu'il déverse dans Apocalypse 17, 1, contre l'Église, mais celui-ci Esther le chapitre qui traite de la prostituée et de ses filles prostituées, qui sont toutes spirituelles, et c'est Esther pourquoi la coupe qu'il ouvre apporte la mort spirituelle. Mais maintenant, dans Apocalypse 21, 9, ce dernier ange messager déverse cette dernière coupe ou fléau. Donc, s'il s'agit des sept derniers fléaux, c'est Esther le septième ange, qui est Esther parmi les sept, car le septième Esther le dernier, et on, Néhémie s'attendrait pas à ce que le premier déverse la dernière coupe ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, ou le cinquième, ou même le sixième. Le dernier ange déverse les derniers fléaux. C'est Esther le dernier ange messager qui apporte les sept derniers fléaux. Ce doit être ça. Si ce sont les derniers fléaux, alors ce doit être le dernier messager qui le fait. Cela devrait être très facile à comprendre. Et cela nous dit qu'il déverse le premier pendant son ministère dans le monde, mais qu'il y a ensuite un espace de temps entre Apocalypse 17 et 21, et que ce doit être pendant le ministère de la résurrection de ce septième ange. Qui Esther la voix de 1 Thessaloniciens 4h16. Parce que le même septième ange, qui a été utilisé pour déclarer le cri de 1 Thessaloniciens 4h16, déclarera aussi la voix. Et pendant ce temps, parce que c'est Esther le même qui fait ces trois choses pendant sa parousia. Et donc les sept dernières coupes frapperont le monde pendant que l'épouse sera scellée. Le signe souligné 8 février 1964 souligné Bakersfield, Californie, USA paragraphe 59 de même, nous devons nous rappeler que Dieu est patient. Néhémie voulant pas qu'aucun Néhémie périsse. Il envoie toujours ses signes, ses prodiges. Et puis lorsqu'il est prêt à faire quelque chose, Il sépare le croyant de l'incroyant. Paragraphe 60 est remarqué ensuite. Comment il a pourvu pour son peuple qui se dirigeait vers la terre promise. Considérez ce qu'il a fait pour son peuple qui se dirigeait vers la terre promise, pour s'assurer qu'il n'ait mis s'embrouillait pas dans une espèce d'isme. Qu'a-t-il fait? Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un message identifiant la parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, il a envoyé une colonne de feu qui restait suspendue au-dessus de lui. Amen. Puis, pour lui donner une parfaite assurance, il a exigé un signe. Amen. Il y a un messager, le message, la confirmation, et le signe, la parfaite assurance qu'il n'ait mis devait s'inquiéter de rien. Peu importe le nombre de fléaux qui frappent. Peu importe si tous les autres disent que vous êtes scellés à l'extérieur. Le sceau de Dieu souligné 14 mai 1954 souligné Jeffersonville, Indiana, USA 162 Apocalypse, chapitre 9 maintenant. Lisons très attentivement ici pendant quelques instants, Dieu voulant. Voyons ce qu'il a dit dans sa parole. Maintenant. Espace vide sur la bande, NTE. 2, de l'Apocalypse. Et le verset 4. Écoutez ceci, il leur fut dit, quand ils ont vu des fléaux être déversés, de Néhémie.fr de Malachi, à l'herbe de la terre, ni aux arbres, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 163 Quand les fléaux frappaient, les seuls qui étaient protégés, c'était ceux qui avaient été scellés dans le royaume de Dieu. Ceci Esther l'investigation en vue du jugement, quand les hommes, et si Dieu me vient en aide, nous le prouverons dans quelques minutes, par la parole du Seigneur, que s'Esther maintenant le temps du scellement en vue du fléau. Et pour ceux qui rejettent cela, il n'est mis reste que le châtiment éternel. 63-03-2-3 est le point 6e point saut souligné, Jeff.yen, SS samedi souligné paragraphe 199 et puis, après, que le Messie a été retranché, les nations ont eu leur âge de l'évangile et de la grâce. Et au fil du temps, parmi eux, Dieu en a choisi un ici et un là, et un ici et un là, et il les a fait reposer à l'écart auprès des messagers, et un ici et un là, et un ici et un là, et il les a fait reposer à l'écart auprès des messagers. 200 Il a envoyé le premier messager, celui-ci a prêché, et la trompette a sonné. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Et, alors, la trompette, cela déclarait une guerre. La trompette indique toujours une guerre. Le messager, l'ange vient sur la terre, le messager de l'heure, comme Luther, comme tous les messagers dont nous avons parlé. Qu'Esther ce qu'il fait? Il arrive, et un sceau Esther ouvert, Esther révélée, une trompette sonne, la guerre Esther déclarée, et les voilà partis. Et puis le messager meurt. Il s'est aimé à part ce groupe. Ils sont mis à l'écart. Et un fléau s'abat sur ceux qui ont rejeté cela. Voyez? Paragraphe 201 Ensuite ça continue. Ensuite ils s'organisent. Ils forment une autre organisation. Nous venons d'étudier ça. Maintenant, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de voir cela. Mais Dieu nous rend toutes choses si claires au cours de ces dernières années, que nous n'aurons aucune inquiétude, alors que le monde Esther préparait pour l'embrasement. Puisqu'il y avait 10 plaies en Égypte lors du premier exode, et que la dernière plaie était la mort, je crois que la première des 7 dernières plaies sera aussi la mort, mais cette fois-ci, c'est Esther la mort spirituelle. Maintenant, je veux que vous voyez la séparation entre la première coupe du 7e messager dans Apocalypse 17, inquiétait pour le rejet de son ministère. Mais ensuite, entre Apocalypse 17 et 21, 9, il y a une période de temps, et ensuite il déverse cette coupe. Il déverse cette coupe de cette fléau. En 1953, Frère Branham a dit dans son sermon, Israël à la mer Rouge, deuxième partie, souligné 27 mars 1953, souligné Jeffersonville, Indiana, et sa paragraphe 57. Maintenant, nous arrivons à la dernière plaie, les dernières choses. Dieu dit, j'en ai assez de perdre tout ce temps maintenant. Je vais envoyer la dernière plaie. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, les dernières plaies, c'était la mort. Paragraphe 58. Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres et des bruits de guerre, nous avons eu des raz-de-marée, comme Jésus avait dit qu'il y en aurait, la mer mugissant, le cœur de l'homme défaillant, davantage de maladies de cœur, la maladie numéro 1, la peur, des temps de perplexité, la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des autoroutes. Toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c'est la mort. Pas physiquement, mais, spirituellement parlant. Paragraphe 59. La mort, spirituellement, dans l'Église. Vous remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'Église a plus de membres qu'elle n'en a jamais eu. Elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant elle est plus faible en esprit que jamais auparavant. C'est vrai. C'est tout à fait comme ce fut en Égypte. Par la Sœur Rocher, souligné 12 juin 1960, souligné Chautauqua, Ohio, USA, paragraphe 28. Combien ils avaient facilement oublié que lorsque les plaies tombaient sur l'Égypte, eux ils étaient protégés, que lorsque tout était couvert de mouches, il n'y avait pas une seule mouche autour d'eux, que lorsque tous les lits étaient infestés de poux, tous les vêtements, et tout, il n'y en avait pas un seul sur eux. Les grenouilles étaient dans les armoires et partout ailleurs, partout chez les incroyants, mais eux avaient été protégés. Dieu manifesta sa miséricorde. Paragraphe 29 remarqué. Et quand cette grande dernière nuit était arrivée, Dieu a dit, c'est mon coup final que je donne à l'Égypte. Mais avant de donner ce coup, je dois mettre mes enfants à l'abri. Et un agneau de sacrifice fut immolé, et le sang fut appliqué sur le montant et les linteaux de la porte, et l'assemblée se mit sous le sang. N'oubliez pas, c'était la dernière plaie qui a frappé l'Égypte. Et la dernière plaie qui frappe l'Église aujourd'hui est la même, qui frappe en ce temps-là, la mort spirituelle. En effet, de même que Dieu les a conduits littéralement, il nous conduit spirituellement. Et le dernier coup qui est donné à l'ennemi, c'est la mort qui frappe. Et tout ce qui n'est pas sous le sang, le Saint-Esprit le retranche de la communion. 64-06-14-M2.1 dévoilé, souligné Jeff.INV9. N7 dimanche, souligné paragraphe 157. Maintenant il meurt spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez? Il continue à entrer là-dedans sans hésiter. Vous avez beau leur dire. Oh, je sais. Je le sais. Mais je. Voyez-vous. Allez. Sester dans l'ordre des choses. Ça n'est mis fait que montrer. Vous vous souvenez? En Égypte. Les dernières plaies. C'était la mort. Avant l'Exode. Les dernières plaies. Sur la terre. C'est-à-dire la mort spirituelle, avant l'Exode. Ensuite ils seront incinérés et retourneront à la poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c'est-à-dire la mort spirituelle, de rejeter la parole. Maintenant, regardez à nouveau. La coupe du dernier âge était la mort spirituelle. Et ensuite la tribulation arrive avec cette coupe ouverte par le septième ange. Waouh! Je pense que Dieu a encore beaucoup de choses à faire après les réunions de résurrection que nous allons voir venir. Parce que le monde devra être jugé. Mais nous, les pousses de Dieu, n'y passerons pas par le jugement. Esther Jean 5h24. Et regardez comment Jésus lui-même lit ce jugement avec le temps de la résurrection. Lisons le verset suivant. Donc, mes frères, je n'émissais pas exactement ce que contiennent ces coupes. Mais nous voyons que cette maladie respiratoire est presque identique à la grippe espagnole qui a frappé le sixième âge de l'Église. Et nous savons que le cinquième âge de l'Église était la tuberculose qui a éliminé environ 25% de la population européenne à cette époque-là. Et nous savons que la peste bubonique a frappé les deuxième et troisième âges de l'Église. Et a éliminé d'abord une grande partie de l'Asie mineure et ensuite, au troisième âge, une grande partie de l'Europe. Comme je l'ai mentionné, Frère Bell a suggéré que l'une d'entre elles serait le sida, qui est le VIH, et nous en voyons actuellement le début à cause de toutes les piqûres de rappel. Donc, parce que les gens se sont éloignés de la protection de la parole, Dieu les laisse sans défense. C'est exact. Et bien sûr, nous verrons une crise financière frapper ce monde comme jamais auparavant, car cela est prophétisé dans Deutéronome 28. Et bien sûr nous verrons la famine à l'échelle mondiale, comme nous le voyons dans Amos 8. Donc, la mort spirituelle d'abord, les maladies respiratoires ensuite, le sida ensuite, une forme de peste bubonique ensuite, car c'est ce que la Russie a découvert dans les laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Ils ont découvert qu'ils fabriquaient des armes à partir de ces agents pathogènes. Puis la crise financière, 5. La famine, 6. Et enfin Ebola, 7. Comme décrit dans Zacharie 14h12. Qui s'abattra sur le monde après l'attaque d'Israël. C'est ainsi que je vois les choses, mes frères. Mais je ne suis pas un prophète, un messager de Dieu, simplement un apôtre pour vous. Et je suis également pasteur d'une église, tout comme Jean et Paul. Vous devez avoir une église et un travail pour soutenir votre apostolat. Question 2, dans le sermon L.Enlèvement paragraphe 130. Le prophète dit, trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse, un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Cette citation parle-t-elle de 2:02 Jésus, le Père descendant avec les trois choses, avant que Jésus, le Fils apparaisse? Quelle est votre opinion à ce sujet? Réponse numéro 2, il faut toujours se rappeler d'ôter les yeux du vase et de les porter sur le Dieu qui utilise le vase. Il y a une différence entre l'apparition du Seigneur et la venue, comme frère Branham nous l'a si bien enseigné. Décès et moment souligné 13 juin 1962 souligné Spokane, Washington, USA paragraphe 102. Combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c'est l'apparition, la venue sera pour bientôt. Il est en train d'apparaître maintenant au milieu de nous, accomplissant dans son Église les œuvres qu'il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette Église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Église. Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous Néhémie sont pas apôtres, tous Néhémie sont pas prophètes, tous Néhémie sont pas docteurs, tous Néhémie sont pas évangélistes. Je me tiens ici. Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je Néhémie le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez, c'est de le déclarer lui, qu'il est ici. Alors, qui était-ce avec le cri de minuit dans Matthieu 25, qui s'est crié, voici l'époux Esther là, sortez à sa rencontre. C'était le septième ange d'Apocalypse 21:9 qui a dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est moi. Néhémie soit pas effrayé 11 juin 1962 p. 81. Vous savez, il y a une différence entre l'apparition de Christ et l'apparition de Christ. Ce sont deux mots tout à fait différents. Il est Esther en train d'apparaître maintenant dans son église. Nous le voyons. Nous voyons que c'est Esther lui. C'est Esther le Saint-Esprit. Voyez-vous? Nous savons ce que c'est Esther. Nous croyons que le Saint-Esprit est Esther Dieu. Tous parmi nous le savent. Question 3. La persévérance soulignée 8 juin 1962 soulignée South Arlington, North Carolina, USA 95. Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur et que ce sont deux œuvres différentes? Sondez cela et voyez si c'est vrai. Je vais agir. Deuxième partie soulignée 6 juillet 1962 soulignée Grass Valley, Californie, USA 174. Il est ici. C'est l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence? Il y a un passage dans la Bible. Vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de l'apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes, l'apparition et la venue. Où se trouve l'endroit? Sinon l'écriture à laquelle le prophète fait référence, où il est question à la fois de l'apparition et de la venue? Réponse numéro 3, 1 Jean 2, 2 et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous n'y soyons pas honteux devant lui à sa venue. Nous savons également que Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean ont tous parlé de la parousia de Christ, que les traducteurs de la Bible roi Jacques ont traduit à tort par venue. Mais le mot parousia signifie simplement présence, et s'il Néhémie l'avait pas traduit, nous lirions le mot parousia dans nos Bibles anglaises, puis nous lèverions les yeux et nous saurions qu'il signifie présence. Présence est la traduction directe du mot grec parousia. En 1897, le célèbre auteur chrétien J. B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a écrit une traduction de la Bible, dite « la Bible amplifiée ». Dans sa traduction, il nota ce qui suit, dans cette édition, le mot parousia est uniformément rendu par présence, venu, en tant que représentant de ce mot étant mis de côté. Il poursuit la parousia. Esther encore à venir, et peut donc encore être teintée d'une certaine mesure d'obscurité que seul l'accomplissement peut dissiper. Il peut s'agir in fine à la fois d'un temps plus ou moins long, au cours duquel certaines choses se produiront, un événement, venant et disparaissant comme une série d'interpositions divines, où Christ ressuscite comme prémisse, c'est-à-dire à dire un événement, où il revient et accorde la faveur de sa présence, pendant laquelle il ressuscite les siens, c'est-à-dire un autre événement. Cependant, grand et prolongé, et enfin arrive une autre série d'événements constituant la fin. D'où, après tout, la présence Esther peut être la traduction la plus largement et durablement satisfaisante de la tant recherchée par Ousia du Fils de l'Homme. Un autre auteur vivant à la même époque, du nom de Israël P. Warren, théologien, de Portland dans l'état du Maine, a écrit dans son livre La Parousia, 1879 aux pages 12-15 en parle souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc. Mais les écritures Néhémie parlent jamais d'une deuxième Parousia. Quelle que soit sa nature, c'était quelque chose d'exceptionnel, qui Néhémie s'était jamais produit auparavant et qui Néhémie devrait jamais se reproduire. Cela devait être une présence différente et supérieure à toutes les autres de lui-même aux hommes, de sorte que sa désignation devrait se suffire par elle-même, sans aucune autre épithète qualificative que l'article, la présence. De ce point de vue du mot, il est stérile et vide, je pense, que ni le mot anglais coming, venu, ni le mot le latin ad, avènement, Néhémie soient les meilleurs équivalents du mot. Ils Néhémie sont pas conformes à son étymologie. Ils Néhémie correspondent pas à l'idée du verbe dont il est ster dérivé. Ils Néhémie pourraient donc pas être remplacés de manière appropriée que par le mot plus exact de présence. Au cas où les traducteurs auraient utilisé ce dernier mot, leurs racines plus grand que non plus, Néhémie sont pas les mêmes. Venu et avènement mettent plus en évidence l'idée d'une approche vers nous, d'un mouvement vers nous, parousie celle d'être avec nous, sans montrer comment cela a commencé. La force de la venue, ou avènement, prend fin avec l'arrivée, celle de la présence commence avec l'arrivée. Venu et avènement sont des mots de mouvement, tandis que la présence indique le repos. L'espace de temps couvert par l'action de la venue, ou avènement, est illimité. Il peut être momentané. Celle de la présence est illimitée. Si nos traducteurs avaient gardé ce mot parousia comme ils l'ont fait avec, baptisme en le transférant à changer, ou s'il avait été traduit en utilisant son équivalent étymologique exact présence et s'il avait été bien compris, comme il l'aurait dû être alors, à savoir qu'il n'existe pas de deuxième présence, je crois que toute la doctrine aurait été différente de ce qu'elle est maintenant. Les expressions second avènement et seconde venue n'auraient jamais été entendues. L'Église parlerait de la présence du Seigneur, à travers laquelle ses espoirs devaient se réaliser, que ce soit dans le futur ou à une époque plus reculée, où le monde devait être renouvelé, où la résurrection, à la fois spirituelle et corporelle, devrait s'accomplir, et où la justice et les récompenses éternelles seront accordées. Il poursuit, le mot parousia est devenu le terme officiel pour une visite d'un personnage de haut rang, surtout des rois et empereurs visitant une province. Question 4. 37-4 Christ Esther le mystère 63-0728. Oh! Si seulement l'Église connaissait sa position. Elle le saura un jour. Alors, l'enlèvement aura lieu quand elle saura ce qu'est l'Esther. Quelle est-elle vraiment cette position? Réponse numéro 4. Frère Branham a parlé 145 fois de l'adoption. Et 18 sermons en particulier intitulés Écoutez-le, et environ 8-10 autres sermons traitant tout de l'adoption, et de notre position dans le corps ou de notre position en Christ. En fait, plusieurs messages traitent de notre position en Christ. Et cette idée de l'Église connaissant sa position, signifie qu'elle comprend sa place dans la famille en tant que frère, et Christ étant le frère aîné dans une vaste famille de frères, comme Paul l'a dit dans Romains 8:29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, c'est-à-dire connaître votre position dans la famille, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. J'aime la traduction de Weymouth, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à porter la ressemblance de son Fils unique, afin qu'il soit l'aîné d'une vaste famille de frères. La Bible élargie dit ceci, 29 Dieu les connaissait avant de faire le monde, car ce qu'il a connu d'avance, et qu'il a choisi, il les a aussi prédestinés choisis d'avance, pour qu'ils soient comme moulés sur le modèle de, semblable à l'image de son Fils, afin que Jésus soit le premier-né, le prééminent, mais aussi en indiquant que d'autres suivront, parmi de nombreux frères et sœurs. La résurrection de Jésus confirme que ses disciples participeront également à la gloire de Dieu. 30 Et ce que Dieu a choisi pour être semblable à son Fils, il les a prédestinés, choisis d'avance, il les a aussi appelés, et ce qu'il a appelé, il les a aussi affermis avec lui, déclarés justes et justifiés. Et ce qu'il a affermis et déclarés justes et justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce qui estère à la fois un acte passé en Christ et une transformation future. En d'autres termes, Dieu a garanti notre fin dès notre commencement. Alléluia. Oh, si seulement l'Église connaissait sa position. Elle le saura un jour. Alors, l'enlèvement aura lieu quand elle saura ce qu'elle estère. Et mes frères, il faut comprendre la doctrine de Christ pour comprendre votre position en Christ. Et nous savons que lorsqu'un enfant de Dieu naît dans la famille, il estère dans la famille, mais il doit grandir et être le bon genre de fils, et toujours s'occuper des affaires de son père, afin d'être adopté. Esther, pourquoi vous, Néhémie, pouvez pas séparer l'enseignement sur le Père et le Fils et les fils, ce qui Esther la doctrine de Christ, de l'enseignement sur l'adoption. Esther tout à fait cela. Romains 8. Écoutez le souligné 11 juillet 1962 souligné Spokane, Washington, USA paragraphe 52 bon. Remarquez maintenant dans l'Ancien Testament, une fois ce garçon né dans une famille. Eh bien, la première chose que le père faisait après qu'il était devenu assez grand pour commencer à apprendre. Eh bien, c'était un fils dès la naissance. Certainement. Il porte le nom de la famille. Il l'a. Mais n'a pas encore d'héritage. Il doit découvrir quel genre de personne il va être avant qu'il ait un héritage. Eh bien, le père, pour se rassurer que son fils suivait une bonne formation, il cherchait le meilleur tuteur qu'il put trouver. Il Néhémie prenait jamais quelqu'un qui allait juste ménager ses mots pour trouver faveur, ou quelque chose comme cela, qui dirait, eh bien, je vais faire un rapport sur le jeune homme, qu'il évolue bien, car le père pourrait me promouvoir un peu. Il va trouver quelqu'un qui lui dira la vérité. Et il. Écoutez le souligné 12 juillet 1960 souligné Klamath Falls. Or, USA paragraphe 37, quand ce fils naissait dans ce foyer, du point de vue position, c'était un fils à papa. Mais alors, que faisait ce père? Il n'avait pas de temps pour rester avec ce seul fils. Ses affaires étaient grandes. Alors, il louait le service d'un précepteur ou un éducateur ou un enseignant. Il fouillait dans le pays jusqu'à trouver le bon genre d'homme, parce qu'il s'agissait de son enfant. Et il voulait que cet enfant soit élevé comme il faut. En effet, cet enfant allait un jour hériter de tout ce qu'il avait. Mais il fouillait partout jusqu'à trouver le genre d'homme qu'il faut. Non pas un de ces hommes qui cherchent à mettre une plume à son chapeau, dire un mensonge, ou, oh, votre enfant évolue très bien, alors que ce n'était pas le cas. Et il aurait à faire le rapport sur le progrès de cet enfant-là. Eh bien, C'était là le placement d'un fils. Les prédicateurs ici présents comprennent et savent de quoi je parle. Le placement d'un fils. Paul dans Galates et ailleurs. Le placement d'un fils. L'Ancien Testament. Et bien sûr, nous devrions tous connaître, comme Frère Bell l'a enseigné, la différence entre notre statut et notre état. Notre statut, c'est dire que nous sommes des fils, mais notre état, c'est dire de savoir où nous en sommes sur notre chemin pour devenir un fils pleinement mature, toujours occupé par les affaires de son père. Lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez dans la famille, mais nous devons atteindre la pleine maturité pour être adoptés et placés dans notre rôle au sein de la famille. Ainsi, nous sommes tous quelque part entre des bébés en Christ et des fils et des filles pleinement mûrs. Je pourrais continuer à parler de ce sujet, mais mes livres, mes bandes et mes enseignements sur l'adoption ont été traduits dans de nombreuses langues et j'espère que, si vous ne l'avez pas encore fait, vous prendrez le temps de le lire attentivement et dans la prière, car il concerne votre croissance en Christ. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juillet 2022. Traduit de l'anglais en français par Frère Serge Ngoy, veuillez adresser toute correspondance, en anglais ou en français, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce sermon à brioncocourec@yahoo.com.